Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques instants, je reçois Jean-Nicolas Ouellette de la ressource CAMÉ, une ressource communautaire en santé mentale qui est située à Montréal-Nord. On va apprendre à connaître cette ressource un peu plus en détail. On a à l'espresso et à l'espresso allongé le sujet pensée magique versus pensée positive. En début de deuxième demi, notre collaboratrice Eve Cardinal vient nous voir avec son sujet le blues des milléniaux, ou si vous préférez la santé mentale chez les milléniaux. Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence d'abord en chanson avec Raphaël Dénommé et la chanson s'intitule « Vampire de l'Est ». Bienvenue à Folie douce.
Sa côte ouest, moi jeune vampire de l'est, la peau qui craque au soleil, hey, hey. Mon cœur lui chante aux cornets. Elle aime le whisky dans son café au matin. Je m'accroche à ses lèvres comme un fou et je l'aime. A man's gotta do what he's gotta do. A man's gotta do what he's gotta do. Ooh, 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 ooh. Tu m'en fais penser au travers l'hiver. M'accroche à ses ailes comme un fou et je l'aime. A man's gotta do what he's gotta do. A man's gotta do what he's gotta do. Tu m'as fait penser au travail l'hiver et oublier tous mes calvaires. On a pensé au travail l'hiver et réalisé tous mes prières.
Que vous soyez malin, peu enclin, radin ou épicurien, vous êtes à Folie douce.
J'accueille maintenant mon invité, Jean-Nicolas Ouellette. Alors, bonjour Jean-Nicolas.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue encore une fois à notre émission. Ça fait longtemps qu'on t'a reçu à l'émission de Folie douce.
Ça fait longtemps et c'est un plaisir qui se renouvelle.
Bien, absolument. On est content de te recevoir en studio. Tu es de la ressource CAMÉ. Tu es un peu le dirigeant de la ressource. C'est une ressource qu'on va apprendre à connaître. Une ressource qui existe depuis longtemps. Mais ça serait bien de faire un tour d'horizon, là, l'historique et qu'est-ce que ça veut dire, CAMÉ.
Ben oui, alors c'est un acronyme, hein? Centre d'activité pour le maintien de l'équilibre émotionnel de Montréal-Nord, donc CAMÉE. Et il faut se rappeler qu'à l'origine, c'était trois personnes, trois femmes, qui à Montréal-Nord voulaient se donner un lieu en dehors de rencontres avec leurs médecins, etc., pour se soutenir, s'entraider, se donner des idées, des conseils. On est en 1986.
Donc, dans les débuts, je dirais, ou presque pas tout à fait les débuts de après la désince, là, de la création des différents organismes.
On peut dire les débuts de la désince, hein? Mais avant la politique de la santé mentale,
oui.
Qui était encore des préparatifs, des choses qui se parlaient, etc.
C'était plus en 89 à peu près. Là, 89,
elle était ça, elle sortait exactement en 89. Là, on fête ses 30 ans. Ça fait déjà 30 ans.
Ça fait 30 ans.
Ouais. Et en 88, ils ont incorporé un organisme, CAMÉ. Et l'idée de s'appeler CAMÉ, de forcer pour avoir ce nom-là, c'est que les trois des personnes qui étaient les leaders, les femmes leaders de ça, portaient un bijou qui est un CAMÉ,
ah oui.
Un profil de femme, oui. Soit sur une bague, un pendentif, quelque chose comme ça. Puis ils disaient, gars, c'est beau, c'est doux, ça sonne bien, on va tous se rappeler de ça, on en voit partout, bon. Et doux. Centre d'activité pour le
maintien. Et en même temps, de trouver les mots qui faisaient l'affaire pour que ça complète le mot. Là,
on CAMÉ. Est dans les années 80, la fin des années 80. Donc, le mot psychiatrie était lourdement chargé de préjugés, de stigmatisation. Les personnes ne voulaient pas se voir comme malades, mais voir que j'ai une différence, j'ai des défis, j'ai des choses. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est le résultat de violence, carence, abus, quoi que ce soit? Les problèmes de santé mentale peuvent avoir plusieurs causes.
Ouais.
Même si, dans les faits, on va donner un diagnostic. Donc, je voulais trouver quelque chose là, qui ne soit pas... je me positionne comme malade, je me positionne comme victime, je me positionne autrement. C'était bon. Parlons de ce que l'on vit. Puis c'est quoi notre rêve, notre but? Ben, avoir un meilleur équilibre émotionnel. Et c'est là qu'ils ont pu rentrer puis faire tout ça. Là.
Est-ce qu'on peut dire que CAMÉ, c'est du pot-répare, les gens qui ont des problèmes de santé mentale? Est-ce qu'on pourrait affirmer
ça? Dès l'origine, absolument, dès l'origine.
Il y a quelques organismes comme ça, mais il y en a peu, là.
Il y en a peu. Dans le monde anglophone, dans le reste du Canada, c'était plus la façon de faire. Au Québec, il y a rapidement eu des gens qui ont pris ça en main. Hein? Que ce soit, rappelons-nous, Solidarité Psychiatrie,
oui.
C'était des gens de l'hôpital Jean Talon en 79, donc avant, mais c'était une psychologue et un travailleur social, ou l'inverse, je ne me rappelle jamais, là, bon, et qui ont démarré la ressource, puis qui l'ont donnée aux gens.
Okay.
Ils se sont retirés, puis c'est devenu par et pour. Mais à l'origine, bon. Alors que CAMÉ, ben, c'est les personnes qui l'ont créé, parce que c'était leur groupe de discussion, hébergé une fois, un soir semaine, dans un petit local du CLSC de Montréal-Nord, qui ont voulu s'affranchir et se dire, ben gars, là, on a un soir semaine. Si à un moment donné, on veut se parler un mardi après-midi, s'il y aurait une activité qu'on pourrait donner tous les jeudis soirs, là, on est mal pris, il faut venir absolument ici ce soir-là, puis c'est formaté et tout ça. Donc, est-ce qu'on peut se donner un centre, un endroit? Et ils ont fini, à force de consulter, de travailler fort, bon. Et en 88, là, ils l'ont incorporé, leur organisation. Puis, c'est devenu CAMÉ.
Avec des demandes, évidemment, de financement. C'est un peu par ça que ça passe. Les organismes communautaires, c'est comme ça.
On fait la première année de financement à CAMÉ, ils ont été bénéficiaires d'un gros 18 000 $
Oh, OK.
Pour tout faire.
Mais c'était...
Alors, vous allez vous louer un local, trouver des gens, payer les frais, ci et ça. Alors, ben, on
beaucoup
est allé...
Beaucoup de bénévolat.
Beaucoup de bénévolat. Les meubles provenaient des surplus de la maison du père, étaient retapés par des gens, des membres qui avaient un bon marteau, quelques clous.
Ouais.
Le premier téléphone était un truc noir de Bell Canada avec une roulette tchik-tchik-tchik qui revient, là. Puis il y avait une ligne, puis c'était ça au milieu. C'était vraiment du bricolage. Là. Mais c'était fait avec amour et ça a tenu trois décennies
et
plus.
Et comment on peut définir maintenant CAMÉ? Parce que ça fait quand même plusieurs années derrière dans l'histoire de CAMÉ. Donc aujourd'hui, on pourrait comment on pourrait décrire CAMÉ ou comment on pourrait la décrire selon ses activités, ce qu'on peut voir?
Alors, c'est toujours un groupe d'entraide en santé mentale, mais qui développe beaucoup plus de services et d'aide. Là. Alors tous les après-midi, si nous avons des activités qui ont une valeur thérapeutique, que ce soit, bon, le groupe de partage qui est là depuis les tout débuts.
Ouais.
Mais on a un groupe d'entendeurs de voix, le troisième qui était ouvert au Québec, là, pour les gens qui entendent des voix ou qui ont d'autres perceptions. Il y en a plus d'une douzaine dans la région de Montréal. On était un des premiers ici. On a des activités. On a de l'art-thérapie tous les hivers. Parce que c'est un milieu aussi où on reçoit beaucoup de stagiaires. Avant, c'était par et pour et un peu fermé, puisque c'était l'époque, puis il le fallait. Ça s'est solidifié, là, on a ouvert les portes et on a, bon, cette année, on a eu quelque chose comme 6 stagiaires différents en travail social, en sciences infirmières de l'université, de milieu de cégep. Et là, on a, pour la deuxième fois consécutive, stagiaires au niveau de la maîtrise en art-thérapie, ce qui permet de l'offrir aux gens. Bon, on a des activités autour de l'art, la musique, les mercredis après-midi. Et de l'art, vraiment, là, visuel à ce moment-là, les vendredis après-midi, avec une véritable artiste qui expose, qui vend ses toiles, qui donne des cours, mais qui là vient animer une activité à Camé. Le musicien n'est pas un thérapeute, c'est un musicien, ils font de la musique ensemble, donc sur un niveau artistique, là, c'est à ce niveau-là que ça... Donc, on fait beaucoup d'activités d'expression qui vont être aidantes. Le soir, plus des loisirs, on a développé 29 logements sociaux qu'on n'avait pas avant, donc on donne du soutien communautaire en logement social.
C'est-à-dire que vous gérez le logement? Vous avez comme un parc de logements à gérer?
Nous avons 29 logements à notre disposition, ouais. Mais ce sont deux autres organismes communautaires qui sont propriétaires, okay. Parce qu'on ne voulait pas que l'argent de l'entraide s'en aille payer les fenêtres et tout ça. Ouais. Donc on a des contrats avec deux organismes partenaires et nous, on soutient les gens pour qu'ils réussissent leur projet de vie, qui est d'avoir un appartement autonome.
OK.
On parle de gens, donc je te dirais qu'il y en a une quinzaine que c'est des personnes seules dans leur appartement. Donc un studio, une chambre à coucher, 3,5 comme on dit. Puis on a des ménages, donc ça peut être la mère et le fils. Il y a quelqu'un dans le ménage qui présente un problème de santé mentale, puis ça pourrait les aider d'avoir quelqu'un qui les soutient.
Puis à ce moment-là, ils ont probablement un tarif aussi qui est plus abordable, puis les conditions...
25 % des revenus maximum, ouais. Là, tu sais, bon.
Qui est chargé pour le loyer.
Et la subvention assume le restant du loyer qui est écrit, ouais, au bail.
Ça, c'est une belle chose. Moi, j'ai toujours admiré ce côté-là, parce que s'il y a quelque chose qui est déplaisant, c'est vraiment la fluctuation, tu sais, de dire un budget, tu peux pas du jour au lendemain avoir une augmentation de loyer, puis tu sais, la personne peut pas subvenir.
On est sur l'île de Montréal, là, dans un des endroits au Québec où les logements sont le plus chers,
ouais.
Peu importe le nombre de pieds carrés et tout ça. Et nos gens, on le sait, c'est des gens qui viennent avec un problème de santé mentale. S'ils sont pas à la sécurité, ils vivent dans la pauvreté, que ce soit la sécurité du revenu, des emplois précaires, la majorité. Donc, on en a qu'ils mettaient 60, presque 70 % de leur budget, là,
ouais,
dans le logement.
Loyer, c'est ça.
Bon, et là, essaie de bien te nourrir par après, essaie de t'habiller, porter. Hein, on sait, faut quand même s'habiller. On a des saisons très marquées au Québec.
Absolument, ça coûte
cher.
On
a trop chaud l'été, on a trop froid l'hiver, ouais, tout ça.
La nourriture, il y a une fluctuation énorme aussi sur
incroyable,
les prix de la nourriture.
Incroyable, ouais. Les prix de la nourriture pour bien s'alimenter, ouais, pour manger des choses. Bon. Donc.
À 25 % moi, je trouve ça génial que ça demeure, cet aspect-là.
Tu vois, ça fait partie de ce qu'on fait comme mesure pour lutter contre la pauvreté. Donc, on a aussi des cuisines collectives, on a des choses comme ça. Pour donner des moyens pour que les gens s'en sortent, Camille est née dans le désir de briser l'exclusion sociale, la stigmatisation. Après les années, on s'est aperçu qu'on réussissait plutôt bien parce que nos fondateurs, fondatrices ont bien fait ça. Le mouvement est avancé. Mais on voulait augmenter d'un niveau, là, puis se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Puis on est dans la lutte à la pauvreté, faire en sorte que les gens, en plus d'exister, puissent vivre un peu mieux. Donc, ils sortent de la misère pour être dans la pauvreté, mais c'est déjà plus d'oxygène, là, parce qu'ils ne sont pas plus riches à la fin. Mais écoute, quand tu as 300$ de plus de revenus disponibles parce qu'il n'est pas mis dans le logement, ça fait quand même une bonne bouffée d'air.
Tu peux faire autre chose et tout ça. Comment tu pourrais décrire aussi, Jean-Nicolas, le milieu de Montréal-Nord? Est-ce qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires? Est-ce que vous êtes un des seuls dans ce type-là? Comment ça? Parce que vous êtes quand même... tu sais, Montréal-Nord, on dit toujours, tu sais, l'Est, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, c'est toujours un petit peu une zone... T'es sur l'île de Montréal, mais t'es un peu ailleurs. Tu sais, t'es pas au centre-sud, t'es pas en plein milieu de la ville.
Il fut un temps où Montréal-Nord avait le charme d'être la banlieue sur l'île. Parce que c'était très enclavé. Avec l'autoroute 25, puis ouais, il y a son pont maintenant.
Ouais.
Donc, on passe, mais on ne s'y arrête pas. Henri Bourassa, Pinot, etc. Puis il y a le chemin de fer. Hein. On n'y pense pas, mais il n'y a que trois rues nord-sud qui traversent Montréal-Nord. Alors, on a Saint-Michel, Pinot, puis la Cordère. Toutes les autres rues arrêtent. Vio, on arrête. Bon.
Ils sont entrecoupés de toutes sortes de choses. Non,
Joliet, on fait un joyeux détour rigolo là, et tout ça.
Ouais.
Donc, on est un milieu un peu enclavé. Il y a de magnifiques organismes communautaires qui sont là. On est le seul en santé mentale dont le siège social, principale place d'activité, est à Montréal-Nord. Mais on est très bien desservi par le groupe d'entraide pour les parents et proches, la parenterie. Le centre d'intervention de crise vient, si on l'appelle, etc. Relaxation, le suivi dans le milieu, le soutien. Bon, donc, on est desservi. Mais si tu fais une réunion de la table de concertation santé mentale, il y a moi puis le gars du CLSC.
C'est ça.
À Montréal-Nord, c'est ça. On est deux. On pourrait inviter une police, là. Bon, la policière socio-communautaire, là. Mais tu vois, c'est ça. On les voit pas à ces trucs de... Vu que ces trucs de concertation, d'analyse des fois sociale, pas assez, je trouve, là. Donc, j'étais un petit peu tout seul à ce moment-là. Ouais. Mais on est desservi par les autres.
Ouais.
Parce qu'on est un territoire un petit peu enclavé.
Oui, exactement. Il nous reste une couple de minutes, tu as une certaine expérience d'avoir fait des contacts justement avec des gens un petit peu partout dans le monde, en fait. Surtout à l'époque, vous étiez un peu les précurseurs en termes de différentes activités. Tu parlais tantôt d'entendeur de voix.
L'entendeur de voix, gestion autonome de la médication, ouais. Ça nous a mis en contact avec la recherche en sciences sociales. On travaille beaucoup là-dedans. Puis ça nous a mis en contact à l'international. On a quelqu'un de la Belgique qui vient en stage pour de l'art-thérapie à ce moment-là. Je suis allé au Brésil dernièrement il y a quelques semaines parler de la gestion autonome de la médication. C'est très fort là-bas. Puis les entendeurs de voix, là, on a des échanges à ce niveau-là.
Ça, c'est intéressant aussi parce qu'on peut s'inspirer l'un l'autre. On a un modèle unique ici au Québec qui n'est pas nécessairement le même modèle pour toutes sortes de raisons. T'sais, on en parlait avant de venir en ondes. En fait, le côté organisme communautaire, milieu communautaire qui s'est développé au Québec, c'est pas cette réalité-là nécessairement dans d'autres pays. Fait que c'est intéressant de voir un peu comment chaque société s'est développée.
On nous envie la vigueur, la richesse de notre secteur communautaire. Votre émission de radio en est un exemple, où il se passe différentes choses, vraiment là, magnifique, puis c'est soutenu dans la communauté d'une façon citoyenne.
Ouais.
Nous, moi surtout, je leur envie, parce qu'ils n'ont pas ce secteur communautaire-là, la vigueur, l'originalité des choses qui naissent dans le milieu de la santé publique. Moi, j'ai visité un truc dans l'hôpital fédéral de Rio qui s'appelle l'Hôtel de la Folie, où les touristes peuvent aller passer une nuit dans une chambre particulière, un petit dortoir, pour vivre l'expérience de ce que vivent les autres sur les autres étages, pour les entendre sur les autres étages,
ah ouais.
Là, et voir qu'est-ce que c'est.
C'est pas trop... c'est bien fait, je veux dire. C'est pas trop voyeur, parce que ça pourrait déraper vite.
Non. Oui, ça pourrait déraper, mais c'est aussi dans un milieu avec les gens. Donc, c'est fait aussi. On se promène pas partout, puis ils viennent pas nous voir. Mais l'ameublement... Le type de chambre, la nourriture, tout ça, c'est exactement ce qui est servi à la table d'à côté, à l'étage d'à côté.
Intéressant. Jean-Nicolas, écoute, c'est tout le temps qu'on a, mais c'est fort intéressant. Il faudrait presque te réinviter pour ça, puis ça semble encore très intéressant comme sujet. Mais j'aimerais que tu mentionnes les coordonnées de Camille, les gens qui veulent en savoir plus ou aller vous voir, ou en tout cas, au moins, surtout, en savoir plus sur vous.
Pendant les prochains mois, jusqu'à présent, on est au 11700 rue Larchevêque à Montréal-Nord. Dans quelques mois, on va déménager... Juste sur le bord de l'eau, à peu près la même hauteur sur le boulevard Gouin. On va doubler la grandeur de l'espace que l'on a. Vous pouvez nous rejoindre dans le 514-327-3035. Mais le plus simple, allez voir sur Facebook, Camille Entraide.
Le site web, camille.ca.
Camille.ca.
Merci beaucoup, Jean-Nicolas, d'avoir été des nôtres. Bonne continuation.
C'est un plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Qui s'est déjà perdu?
Madame Rouge a eu un bon feeling quand il lui a offert ce verre. Il avait l'air entreprenant, elle a choisi de le laisser faire. Monsieur Bleu a eu du désir quand elle a trinqué en souriant. Il l'a sans complice, ça ne lui arrive pas si souvent. Le trouble est réciproque, leur premier verre est déjà vide. Naturellement, leur corps s'approche, ils ne sont plus timides. Ils partageront les prochaines heures et les pulsions en avalanche. Madame Rouge et Monsieur Bleu se souviendront de cette nuit blanche. Mais les jours s'enchaînent avec le doute comme emblème. Ils ont envie de se revoir et c'est peut-être ça leur problème. Ils ne savent pas sur quoi miser, se dévoiler paraît dangereux. Ils commencent une étrange partie de poker amoureux.
Qui s'est déjà perdu dans le poker des sentiments? Qui se sentira courageux? Qui pourra dévoiler son jeu? Qui s'est déjà perdu dans le poker des sentiments? Qui s'effacera et qui voudra miser? Qui mentira le premier?
Monsieur Bleu pense qu'il faut qu'elle pense qu'il ne pense pas trop à elle. Madame Rouge croit qu'il croit qu'elle se croit un peu trop belle. Monsieur Bleu a senti qu'elle sentait qu'il se sentait trop bien. Madame Rouge a voulu qu'il la veuille, mais sans vouloir aller trop loin. Mais de quoi ont-ils peur dès qu'il faut regarder devant eux? La rencontre est si claire et le futur si venteux. Est-ce qu'il leur faut cacher leur jeu ou mettre carte sur table? Doivent-ils bluffer leurs sentiments pour se sentir moins vulnérables? Doivent-ils miser le minimum pour se protéger? Ou prendre des risques pour pousser l'autre à s'engager? Les non-dits, les faux-semblants remplissent la partie de contrainte. Le naturel s'est égaré, leur amour est un labyrinthe.
Qui s'est déjà perdu dans le poker des sentiments? Qui se sentira courageux? Qui pourra dévoiler son jeu? Qui s'est déjà perdu dans le poker des sentiments? Qui s'effacera et qui voudra miser? Qui mentira le premier quand il le
Depuis le lendemain de leur rencontre, ils marchent sur des œufs. Ils découvrent progressivement les règles de leur propre jeu. Mais ce soir, Monsieur Bleu et Madame Rouge ferment les volets. Et pour une fois, sans se poser de questions, ils repeignent la nuit en violet.
Qui s'est déjà perdu dans le poker des sentiments? Qui se sentira courageux? Qui pourra dévoiler son jeu? Qui s'est déjà perdu dans le poker des sentiments? Qui s'effacera et qui voudra miser? Qui mentira le premier? Qui s'est déjà perdu dans le poker des sentiments? Qui se sentira courageux?
Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca.
C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour, Gislain Malo.
Bonjour.
Et bonjour, Pierre Laporte.
Salut, Yvan.
Alors, Pierre, ton sujet que tu nous amènes, pensée magique versus pensée positive.
Oui, parce que c'est pas exactement la même chose. C'est un article de Mme Dominique Jeanneret, qui est thérapeute et blogueuse et globe-trotter. J'ai pris ça sur le site chemindevie.net, ce qui est également l'adresse de son blog, donc chemindevie.net. Elle commence en nous disant « L'obsession et la pensée magique, qui n'a jamais cru à la volonté de l'esprit ou en quelque action symbolique pour changer le cours des choses? Dans leur monde imaginaire, les enfants se donnent l'illusion d'un pouvoir magique. Ce mode de pensée marque, selon Sigmund Freud, une étape indispensable à notre développement, c'est-à-dire le moyen d'accepter les dures lois de l'existence, à commencer par la conscience de notre impuissance et l'interdit de certains désirs. » Là, on est dans la psychologie pure. Qu'advient-il ensuite de ces pensées superstitieuses? Les psychologues parlent d'un déclin normal jusqu'à l'âge de 12 ans vers une perception plus rationnelle de la réalité. Tout porte à croire pourtant que ces pensées superstitieuses existent aussi chez l'adulte, en particulier les personnes fortement angoissées atteintes d'un trouble psychologique appelé l'obsession. Intrigué par cette contradiction, le psychiatre londonien Derek Bolton a analysé ce système de pensée imaginaire au-delà de la petite enfance et jusqu'à la fin de l'adolescence. Le chercheur et son équipe se sont mis d'accord sur une définition de ces pensées imaginaires, soit l'explication de phénomènes réels par des causes irrationnelles. Ils ont mesuré l'évolution et l'importance de ces croyances jusqu'à l'adolescence en mesurant parallèlement divers symptômes de l'obsession. Et l'étude révèle bel et bien le maintien des pensées superstitieuses jusqu'à la fin de l'adolescence chez certains individus. L'idée d'un processus qui céderait à l'avènement de la raison vers 12 ans est donc remise en cause. L'un des principaux mécanismes de ce trouble psychologique serait ainsi confirmé, soit maintenir l'illusion qu'un contrôle absolu de la réalité est possible pour apaiser ses angoisses. Ça rejoint aussi l'idée des superstitions.
Ouais.
Tu sais, les gens qui vont vouloir se laver les mains.
Oui, ouais, un peu les tocs, là, en fait, les troubles obsessifs compulsifs, ouais, aussi.
C'est pas la même chose à vouloir réaliser un rêve, puis la superstition, je suis pas sûr de comprendre.
Mais sauf que quand il parle de penchant magique, ça dépasse le rêve. Il y a un côté un peu superstitieux.
Être un bon athlète, que je n'allais pas devenir, ça m'aidait quand même. C'est essentiel.
Ouais. Je pense qu'on en a tous des superstitions.
Mais c'est pas une superstition.
Des fois, c'est la visualisation.
J'espérais, ça s'est pas fait. Ouais. J'essaie de comprendre de la superstition, puis espérer, même si ça n'arrive pas.
Alors, Mme Dominique Jeanneret nous dit « Un jour, j'ai discuté avec un ami. Dans la discussion, il m'a dit qu'il était sceptique quant à ma nouvelle façon de penser dans laquelle je semblais m'enligner, d'après lui, à de la pensée magique. Toujours être positif, croire que tout va bien aller, clamer que rien n'est grave, que tout va bien, etc. Je lui ai alors parlé de ma vision de la différence entre la pensée magique et la pensée positive, parce que Mme Jeanneret penche nettement vers la pensée positive. Mm-hmm. Elle nous dit « Le scepticisme de mon ami se référait en parlant ainsi à son enfance et au souvenir négatif d'une voisine qui enseignait les principes de la pensée positive à grands coups de prêchage, voire même de violence verbale. Sa famille et lui voyaient évoluer les voisins qui suivaient cet endoctrinement. » Il parlait d'une autre façon, agissant comme si tout allait bien malgré la maladie et la mort de certaines personnes de leur famille. Tout allait toujours bien, les malades allaient s'en sortir, disait-il en souriant au ciel, par exemple, pour finir par pleurer comme n'importe qui à la mort de la personne, retombant ainsi sur terre et dans la réalité. En bref, les personnes qui croient à la pensée magique sont coupées de leurs émotions en se raccrochant à ce genre d'enseignement par besoin d'avoir un but dans la vie, c'est-à-dire le contrôle sur elles, et pensant trouver ainsi l'apaisement de leurs angoisses face à la maladie et à la mort, et que celle-ci irait mieux en croyant très fort que tout va bien aller. Ce genre de croyance est de la pensée magique. On voit souvent ce genre d'attitude avec des personnes qui embarquent, entre guillemets, dans des mouvements philosophiques, sectaires ou religieux et qui en sont tout illuminés et déconnectés cependant d'eux-mêmes. On les voit en parler avec des étincelles dans les yeux et on peut trouver ça magnifique, admirable et quand même attirant. La plupart du temps, cependant, ces personnes ont besoin, pour se confirmer qu'elles ont raison, d'en parler souvent à qui veut les entendre. On enseigne toujours ce qu'on a à apprendre. Le problème de la pensée magique est que souvent, les résultats escomptés n'arrivent pas. On se retrouve alors devant un constat d'échec et on aura tendance à mettre la faute sur Dieu, sur l'autre, etc. Le retour à la réalité est parfois douloureux. Cependant, le temps que ça dure, la pensée magique permet à une personne de survivre face à une situation qui est difficile pour elle. C'est le côté positif de la pensée magique. L'autre côté positif d'avoir eu un épisode de pensée magique dans sa vie, c'est que lorsqu'on revient sur Terre, l'action d'avoir pensé positivement a quand même eu quelques résultats positifs. Mais je continuerai un peu plus tard.
On va poursuivre donc sur la pensée magique versus pensée positive. Demeurez des nôtres à Folie Douce.
La bonne santé mentale touche à tous les aspects de notre vie. Donnons maintenant la parole à nos chroniqueurs.
C'est avec plaisir que j'accueille à nouveau Eve Cardinal. Bonjour Eve.
Bonjour Yvan.
Alors aujourd'hui, tu nous amènes un autre sujet, puis un sujet qui va nous faire un peu... on va un peu se poser la question, qu'est-ce que tu veux dire par là, le blues des milléniaux?
Et le fameux blues des milléniaux. En fait, ce qu'on va aborder, c'est pas nécessairement que les milléniaux sont plus déprimés ou dépressifs que les générations antérieures, mais c'est peut-être un petit peu plus de parler quelle est leur situation, tu sais, dans quel milieu ils vivent. Premièrement, les fameux milléniaux. Bon, on en parlait un petit peu en honte, hein, quel est un millénial, tout ça. Moi, j'avais de la misère à les différencier, Y, millénial, etc. Donc, les milléniaux, ben, en fait, c'est la génération, hein, qui part des années 80 jusqu'à à peu près aux années 2000, qui ont vécu de grands changements. En fait, peut-être plus leurs parents, mais qui ont vécu dans une époque de grande transformation.
Par ricochet, ont vécu un peu. Puis souvent, on dit que c'est des jeunes qui ont à peu près utilisé les technologies depuis pas mal leur jeunesse, la plupart. Là, peut-être pas ceux des débuts des années 80, mais la majorité d'entre eux sont habitués de fonctionner avec les technologies téléphone, ordinateur et tout ça, là, tout ce qu'on connaît aujourd'hui.
Tout à fait, puis on en a déjà parlé dans une chronique antérieure, justement, de l'effet des médias sociaux un peu sur la dépression ou l'estime de soi, tout ça. Là, aujourd'hui, c'est plus pour englober, globalement, pour me répéter, là, la situation des milléniaux. En fait, non seulement ils ont la pression des médias sociaux, de l'apparence, hein, de plus en plus de l'image, YouTube, tout ça, mais ils ont aussi la pression de la performance. Et c'est une génération, selon mes lectures, qui est quand même très perfectionniste, dans le sens où ils veulent avoir une qualité de vie, une conciliation travail-famille, et avec raison. Mais en même temps, ils se mettent énormément de pression. Donc, c'est intéressant de voir plusieurs aspects au niveau des milléniaux et de la dépression qui est un fléau dans notre société. En 2020, on l'a répété souvent, il y a une bonne partie de la population et la santé mentale, les problèmes de santé mentale seront la première cause d'invalidité. Ouais. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui va les toucher directement.
Et les milléniaux, en fait, d'après moi, nous sommes dans la génération X, la génération sacrifiée, finalement, des années 80-90 et tout. Mais les milléniaux, souvent, c'est-à-dire les années plus 60-70, les milléniaux, eux, ont comme plus de chances, ont comme plus d'opportunités, peut-être, dans le marché du travail. Sauf qu'ils ont comme plus de pression aussi, parce que la société comme a la loupe sur eux, puis c'est comme eux qui doivent être productifs, puis prendre leur place, puis... Et c'est pas évident non plus, ça ajoute beaucoup, là.
Bien, ils ont une pression, effectivement, avec le vieillissement de la population. Ils ont une pression, effectivement, ils sont sous la loupe. Tu sais, souvent, hein, si on regarde là, les offres d'emploi, hein, écoute, on est rendu qu'il faut parler des fois trois langues, il faut maîtriser ci, ça, ça. Donc, il y a beaucoup d'exigences. Et on dit qu'il y a 26 % des milléniaux qui disent avoir vécu un épisode dépressif. Hein. Donc, ça, on parle quand même de personnes relativement jeunes, hein, qui commencent des fois des carrières avec de la pression. Il y a aussi le stress économique, je veux dire, ça coûte de plus en plus cher partout. Les efforts financiers, le soutien, des fois, se fait moindre. Donc, ça peut devenir quand même une source de pression là, qui est non négligeable. On dit souvent, les jeunes sont chanceux, ils ont l'avenir devant eux, mais c'est un stress, là. C'est un stress qui est réel à divers niveaux.
Ils ont peut-être eu aussi, à mon avis, d'après mes observations, ils ont peut-être eu moins d'habitude d'épargner. Tu sais, je veux dire, dans le cas des X ou des baby boomers, souvent, ils n'avaient pas le choix. Tu sais, il y avait des situations difficiles dans la vie, alors qu'eux, souvent, ils peuvent changer d'emploi assez facilement. C'est pas une difficulté de se trouver un nouvel emploi. Mais en même temps, s'ils n'ont pas l'habitude d'épargner ou de faire attention à ce qu'ils font, peut-être qu'ils peuvent se placer dans des situations stressantes. Tu sais.
Aussi, et il y a un phénomène effectivement de surconsommation. Hein? Donc, tu sais, on est habitué de consommer, on est habitué d'avoir, je dirais pas tout cuit dans le bec parce que ce serait un jugement qui serait pas juste. C'est d'avoir les choses rapidement. On vit comme ça, ils ont été élevés comme ça, ils subissent aussi hein, quand même les aléas de la surconsommation. Donc, à quelque part, il y a une énorme pression sociale. Puis, en fait, là, on n'en discute pas beaucoup d'entre nous. Tout ça, il y a beaucoup d'adolescents, de jeunes adultes qui ont des troubles de sommeil, des troubles alimentaires, des troubles de l'estime de soi, des troubles au niveau de l'apparence physique et des troubles au niveau aussi du statut social. Donc ça, c'est prouvé. Et c'est vrai que c'est normal d'extresser, mais d'extresser dans une période de temps qui
on se parle termine de plusieurs... un jour.
Il faut que ça se termine, parce que sinon, ça se termine en dépression majeure.
Exactement. Est-ce que tu penses que c'est... Tantôt, tu donnais des chiffres. Est-ce que tu penses que c'est plus de gens comparativement aux autres générations? Est-ce que quand on dit 26 % je pense, de gens qui... Est-ce que ça se trouve être comme plus présent chez eux, chez les milléniaux, ce genre de...
Non, en fait, selon les études, au contraire, ce serait même moins présent, sauf que la différence, c'est qu'on en parle plus. Hein? Je sais pas, moi, en tout cas, moi, personnellement, quand j'étais jeune, on parlait pas de TDAH, on parlait pas de spectre de l'autisme, on ne parlait pas de troubles de l'humeur, de la personnalité, tout ça, on parlait à peine de dépression. La différence, c'est ce qui est à leur avantage, et en tout cas, moi, le conseil... si je peux me permettre, que je leur donnerais, c'est plus on en parle, mieux c'est. Donc, ils ont cette possibilité-là d'une certaine ouverture d'esprit. Et selon moi, il faut en profiter justement pour en parler. Donc, la différence, c'est qu'on en parle plus et que quand on les sonde, quand on leur demande, ils en parlent plus et ils admettent plus. Disons qu'ils peuvent avoir certains troubles anxieux ou certains troubles de santé mentale.
C'était peut-être juste qu'on ne posait pas trop les questions. On ne nous posait peut-être pas les questions à l'époque, mais peut-être qu'on vivait ce genre de situation-là sans trop le savoir ou sans faire une histoire, mais peut-être que ça touchait quand même des gens.
Bien, les tabous commencent à tomber. Justement, on parle des réseaux sociaux, on en parle souvent de façon, disons, des fois négative, mais il y a un aspect extrêmement positif, c'est-à-dire qu'on peut partager, on peut avoir une tribune pour donner une opinion. Donc, les tabous se tombent. Donc, ça, c'est l'aspect qui est positif là, de la chose.
Oui. Il y a plus de positifs que de négatifs, ça c'est certain, dans les réseaux sociaux et dans les nouvelles technologies. Donc on parle du blues des milléniaux. Donc finalement, qu'est-ce que tu trouves aussi sur le sujet à nous rapporter?
Bien, c'est qu'en fait, les milléniaux vivent énormément, beaucoup plus d'anxiété. Donc, comme on dit là, à cause des surtout au niveau de l'apparence. L'apparence est, dans cette génération-là, très importante. Donc, quand on se sent, comme tu l'as dit, sous la loupe, c'est que en fait, ça génère énormément d'anxiété et de l'anxiété aussi qui est refoulée. En même temps, c'est un paradoxe. On en parle, mais en même temps, on a peur aussi encore des préjugés. On a peur, en fait, des conséquences sur l'apparence, des conséquences dans le cercle social. Il y a l'isolement. L'isolement, là, ça, dans mes lectures, on en voit beaucoup. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais on a parlé, par exemple, le fils d'Alexandre Taillefer, on en a parlé beaucoup, s'isoler derrière une console de jeu, derrière les médias sociaux, émettre des opinions, mais sans jamais avoir vraiment de rétroaction. Donc ça, ça a des impacts énormes, apparemment, sur le taux d'anxiété, le taux d'estime de soi, puis l'isolement, la solitude, l'isolement, c'est pas juste, en fait, les personnes aînées hein, qui le vivent. On parle beaucoup d'isolement, de solitude chez les personnes aînées, mais il y a à peu près 35 % des jeunes qui se disent, qui disent se sentir seuls.
Et donc, c'est ça qui est un peu paradoxe avec les réseaux sociaux où on est connecté toujours, c'est-à-dire qu'à la fois, on est avec du monde, mais on n'est pas vraiment entouré. C'est ça qui est un paradoxe incroyable.
Tout à fait. Et quand on a des symptômes de dépression, normalement, en fait, il y a deux choses. On veut se retrouver isolé, mais en même temps, on veut communiquer. Alors là, la limite dans le réseau social, c'est que tu communiques, mais en fait, tu ne vas pas prendre un café avec la personne. Tu es en train de communiquer quand même toujours derrière ton clavier. Ça, c'est pas juste les milléniaux. Là, je veux dire, on est tous un petit peu comme ça, mais c'est particulièrement effectivement répandu puisqu'ils ont été élevés avec un clavier à la main. Donc, on peut pas les blâmer, là, mais c'est la réalité.
Ouais. Les milléniaux, je ne sais pas si ils ont conscience aussi que ça va, l'économie va reposer sur leurs épaules parce que les X vont avoir 60 ans, quand même dans quelques années. Les baby boomers sont déjà à la retraite, tout ça. Donc, il y a une population vieillissante qui fait que les milléniaux, c'est eux qui vont devoir soutenir la société. Ça fait que ça va ajouter, je pense, un facteur stress encore plus. J'espère qu'ils sont au courant de ça parce que ça il faudrait se prémunir, justement, trouver des moyens, justement, de peut-être de se protéger. Là,
ça doit faire partie de leur anxiété s'ils s'en rendent compte, effectivement, ouais. Là, mais on parle pour parler. Par contre, l'idée, puis souvent, entre guillemets, on a souvent fait du sarcasme en disant « Ah, ils pensent juste à leur vie, conciliation, travail, famille et tout. » Et peut-être que ce sera une de leurs forces de faire ça, hein, parce qu'ils vont devoir vivre avec de l'intergénérationnel, s'occuper aussi de la société. Donc, à ce moment-là, contrairement aux X qui, nous, hein, on donnait souvent beaucoup de notre temps supplémentaire, employeur, tout ça, peut-être que j'espère que ça va devenir une force pour eux de focusser justement sur leur vie personnelle et leur équilibre.
La qualité de vie, la fameuse qualité de vie qu'on est toujours prêt à laisser tomber, là, mais elle est importante. Là. Une personne en meilleure santé puis en meilleur état va mieux travailler, va être meilleure dans la société, va apporter mieux donc pour sa famille, pour ses proches.
Hein. Puis ça, on a beau dire, là, ça fait peut-être partie de leur force de considérer ça.
Ouais.
Puis en rafale, Yvan, là,
plusieurs minutes.
Alors, il y a eu un sondage là, auprès des jeunes de 18-34 ans. Qui demande « Avez-vous déjà vécu une dépression importante, des moments de dépression ou des périodes d'anxiété? » Donc, on parle d'une proportion de 26 % que oui, comme je l'ai dit.
Ouais.
Un moment de dépression à 50 % une période d'anxiété à 52 % et il n'y a que 19 % qui disent n'avoir vécu aucun de ces symptômes-là.
C'est beaucoup quand même.
C'est énorme. Et un sondage auprès des parents. Est-ce que l'un de vos enfants a déjà consulté un professionnel de la santé, médecin, psychologue, travailleur social pour des raisons de stress ou d'anxiété? Oui à 31 % et le plus inquiétant, non à 56 %. Donc ça, on en a déjà parlé dans d'autres chroniques antérieures, peu importe, ça prouve que ce soit chez les milléniaux, dans nos générations, il y a presque la moitié de la population qui ne consulte pas.
Oui. Puis moi, ça, c'est toujours mon interrogation. Je me dis, les gens, c'est un peu un concept vague de dire on consulte, tu sais, parce que c'est pas aussi clair. On va voir qui, on en parle à qui. Tu sais, c'est un peu d'en parler à plusieurs personnes. Ça peut être nos proches, tu sais, consulter, ou comme tu disais dans une autre chronique, tu sais, d'aller chercher l'information d'abord dans un premier temps, mais d'aller peut-être justement chercher de l'aide médicale, au moins pour avoir une évaluation, là.
Tout à fait. Puis on ne le redira jamais assez que d'aller chercher de l'aide, ça peut être long, ça peut être décourageant, mais en fait, c'est bénéfique. Puis dans le cas des milléniaux, justement, étant donné que c'est une population plus jeune, il y a réellement à consulter aussi la famille. La famille devrait être de plus en plus ouverte. On le souhaite là, à ces questions-là. Donc, il y a aussi le soutien familial. On l'oublie souvent. Hein. On est dans une société très individualiste parce que la famille a pris peut-être un petit peu moins d'importance. Mais le soutien familial peut être important. Puis,
la famille connaît la personne, donc peut-être elle a une façon de l'écouter d'abord, puis de plus connaître, de reconnaître qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas.
C'est pas toujours l'option première, non. Mais ça peut en être une que des fois on oublie aussi.
Faut pas avoir peur d'en parler d'abord, parce que peut-être si ça vient pas de nous, ça peut être les gens qui vont nous donner des conseils où aller et quoi faire. Et c'est toujours bon de sortir, d'exorciser la problématique, mais en plus de peut-être d'obtenir de l'aide qu'on s'attend pas. Là.
Tout à fait. Puis il y a les groupes de soutien, il y a les groupes de soutien même virtuels. Il y a toujours le CLSC et surtout d'essayer d'aller voir le plus possible qu'est-ce qui nous convient selon nos moyens. C'est pas toujours facile non plus.
Oui, merci beaucoup, Eve Cardinal. Donc, le blues des milléniaux, la santé mentale chez les milléniaux. Merci, à une prochaine.
Avec plaisir.
Au revoir.
Bye.
Je ne te dirai pas l'absence et cette moitié de moi qui est morte et puis qui danse autour d'un grand feu sans joie. Je ne te dirai pas la peur vie loin de tes bras, le poignard plongé dans le cœur et la lame qui se retire pas, et que je dors en diagonale à plat ventre dans notre grand lit pour que mes bras en croix avalent le vide de ton corps enfui. Je ne te le dirai pas, je ne te le dirai pas, non. Parce que j'ai eu tant d'amour que si ça s'arrête aujourd'hui, moi j'en aurai encore pour le reste de ma vie, pour le reste de ma vie. Je ne te dirai pas le chagrin qui est mon nouveau manteau, qui me gratte et qui m'étreint et qui parfois me tient chaud. Je ne te dirai pas le ciel comme il est beau sur nos toits, qu'il me fait pousser des ailes vers le grand plat, et que je parle avec le chat, que je l'appelle par ton prénom, même si ça n'arrivera sur toi qu'après deux petits verres de Chinon. Je ne te le dirai pas, je ne te le dirai pas, non. Parce que j'ai eu tant d'amour que si ça s'arrête aujourd'hui, moi j'en aurai encore pour le reste de ma vie. Parce que j'ai eu tant de bonheur que si ça s'arrête à jamais, j'aurai de quoi faire battre mon cœur jusqu'à ma mort. Pas l'espoir, l'espoir met souvent les voiles, mais il brille quelque part. Oh ma toute petite étoile.
Vous êtes branchés sur Folie Douce, soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle.
Tel que promis, nous poursuivons avec le sujet de l'espresso, entamé plus tôt, et maintenant l'espresso allongé, pensée magique versus pensée positive.
Oui. Pensée magique, c'est presque des fois de la schizophrénie, dans le sens que tu te convaincs de quelque chose qui n'existe pas. un point tel, là, dire que ça n'a pas de sens.
Peut-être,
là.
Peut-être, oui. Alors, c'est un article écrit par Mme Dominique Jeanneret, qui est thérapeute, blogueuse et globe-trotteur. Et elle a son site, c'est chemindevie.net. Et c'est également l'adresse de son blog. Alors, elle nous dit « La pensée magique est le fait de surestimer les conséquences de ses actes ou même de ses pensées sur son environnement, dépassant les relations de cause à effet normal. La psychologie suggère que la pensée magique constitue une tentative d'échapper à l'angoisse de l'inconnu. » Maintenant, Mme Jeanneret nous dit « Penser positivement, parce que elle, c'est ce qu'elle préconise, ne veut pas dire s'accrocher à des croyances que tout va bien aller et qu'on va être heureux. C'est un état sincère et naturel. On ne croit pas avec sa tête, mais avec son cœur. Là est toute la différence d'avec la pensée magique. Pour que la pensée positive marche, il est nécessaire qu'elle soit ressentie et qu'elle émerge du cœur. Ce n'est pas une pensée à laquelle on nous a obligés de croire et qui semble miraculeuse. C'est une façon de penser générale et quotidienne où on décide, avec son cœur, son senti, son intuition, de voir, par exemple, que les choses négatives peuvent avoir un côté positif. » Et là, on doit être d'accord avec elle parce que c'est par nos erreurs qu'on apprend. Donc, on peut dire qu'il y a du positif dans le négatif. Moi, je le vois un peu comme ça.
Ça dépend des situations, par exemple.
Oui.
Une guerre civile, je peux pas dire le positif.
Mais c'est sûr, il y en a qui pourraient dire que
ça apporte quelque
chose. Il y a des
chose.
Amitiés qui sont créées.
De l'entraide,
pendant la guerre.
Ouais, mais je dirais que ça peut pas teinter je pense qu'on va parler de la Syrie. Ça peut pas teinter de conditions absolument.
Ça doit certainement donner du positif, mais c'est sûr que c'est plus difficile.
On pourrait s'en passer de la guerre. Ouais.
Ouais.
Alors, Mme Jeanneret dit « C'est décidé d'attirer le positif en mettant du positif dans notre vie à travers nos gestes et nos paroles. Cela va de toutes petites phrases anodines à de grandes actions. Par exemple, au lieu de dire que le repas est écœurant, entre guillemets, on dit qu'il est excellent. Au lieu de dire « je ne veux plus être seul », on pense « je veux être avec le meilleur conjoint qui soit pour moi », etc. C'est vrai que ça peut paraître anodin.
Mais c'est vrai qu'en tournant la phrase de façon positive, c'est sûr que ça peut pas nuire. Là.
Elle nous dit « pour cela, nul besoin d'en parler à qui veut nous entendre, mais simplement se permettre de sentir qu'on veut vraiment réaliser le rêve ou le désir qui nous habite. »
Le seul problème, c'est que si tu fais pas d'efforts, T'as juste la pensée positive.
Non, mais la pensée va te forcer souvent à faire l'effort que ça prend pour y arriver. Tu sais.
Ouais,
je crois à ça.
Parce que le succès sans effort, ça serait plus de la pensée magique, je dirais.
C'est ça.
Mais tu peux pas juste te dire dans ta tête que tu vas réussir.
Mais non, c'est les deux.
T'es encore sur ton sofa. Là.
C'est certain. là, ça devient de la pensée.
c'est quand
ça devient de la pensée magique. C'est moins positif.
Madame Jeanneret nous dit « Le rêve est alors inscrit en nous. » On le sent. On décide d'y croire et il finit par se réaliser. Un exemple, quand j'étais petite, j'avais un beau-père tyrannique et violent. Pourtant, il avait un bon fond, mais pour l'enfant que j'étais, ce n'était pas évident à déceler. Son attitude faisait que j'appréhendais sa présence en tout temps. J'en avais peur au point d'avoir des maux de ventre continuels. Mon attitude d'enfant apeuré, qui ne pensait à son sujet que négativement, attirait des attitudes négatives de sa part envers moi. Un jour, complètement découragé, ne sachant plus que faire, j'ai pleuré et dit à ma grand-mère que j'étais sûr qu'il me détestait. J'avais beau être la plus gentille, la plus raisonnable, la meilleure à l'école, j'avais l'impression que rien ne marchait pour qu'il soit gentil avec moi. Ma grand-mère m'a alors répondu que non, il m'aimait, mais ne savait juste pas comment me le montrer. Elle m'a alors suggéré de voir la situation autrement et donc d'agir autrement. Cela m'a pris tout mon courage et mon énergie, mais j'ai essayé. Je devais avoir 6 ou 7 ans. J'ai alors osé consciemment, de toutes mes forces et de tout mon cœur, dire une chose gentille à mon beau-père, malgré mes peurs et mes maux de ventre. Le résultat a été phénoménal et très positif. Je suis resté sidéré par l'énergie qui alors a changé subitement du tout au tout entre lui et moi. De noir, elle est devenue subitement blanche de lumière, de paix et de tendresse. Ma peur s'est momentanément évanouie et mes maux de ventre ont disparu comme par miracle. La pensée positive est un mode de vie quotidien qui s'inscrit tout simplement dans nos gestes et nos paroles. On n'a pas forcément de la lumière dans les yeux quand on parle de façon positive, mais on est sincère et honnête avec soi-même. On est dans sa présence. La personne qui décide d'employer la pensée positive avec son cœur et son senti consciemment ne regarde pas au ciel en souriant tout en nous parlant de ses croyances ou n'essaie pas de nous transpercer de son regard pour nous faire croire à quelque chose. Elle est simplement présente. En conclusion, Mme Jeanneret nous dit « La pensée magique amène la personne à être déconnectée d'elle-même. Elle vit suivant un schéma mental et des croyances mentales qui ne sont pas ressenties intérieurement et profondément. » On le remarque parce qu'elle parle beaucoup de sa façon de penser, essayant de faire en sorte que tout le monde agisse comme elle. Et la pensée positive, elle, amène la personne à être présente à elle-même. Elle vit ce qu'elle ressent profondément. Elle est consciente d'agir positivement le plus souvent possible et avec son cœur. Alors, c'est sa façon de voir les choses.
Le doute, ça a quand même du bien parfois.
Mais moi, j'ai tendance à croire à la pensée positive.
Bien, merci beaucoup, Pierre, pour le sujet. Donc, pensée magique versus pensée positive. Merci, Julien, également, pour ta participation au micro. Merci. À Folie 2.
Souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Pour conclure ce rendez-vous de Folie douce, Gisèle Malot, on va nommer les chansons entendues cette semaine.
Oui, absolument.
On a entendu Vampire de l'Est
de Raphaël Dénommé.
On a entendu Poker
de Grand Corps Malade.
Dans la deuxième demi, on a pu entendre Je ne te dirai pas.
Oui, de Clarica.
Et pour, à l'instant. Oui.
Pas la compagnie d'assurance.
Oui, plutôt la chanteuse. Oui. Et à l'instant, stéréophonique.
De Debbie Tebbs.
Merci beaucoup pour votre choix musical. Merci à toi et à Pierre. Merci pour ta participation également au micro.
Merci.
Je remercie Pierre Laporte à la mise en onde.
Bienvenue.
Ainsi que tes blocs espresso et allongés où tu nous as parlé de la pensée magique versus pensée positive. Notre invité en début d'émission était Jean-Nicolas Ouellette de la ressource Camé. Notre collaboratrice Eve Cardinal a aussi été les nôtres et nous a proposé le blues des milléniaux, la santé mentale chez les milléniaux. Alors, c'était le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.